En route vers les Paralympiques 2024, c'est une série de 4 émissions où nous regardons ensemble la programmation des Jeux de Paris, tout en nous attardant sur un sport en particulier, en passant du temps avec un ou une athlète, son entraîneur ou sa partenaire d'entraînement. En s'appuyant sur une couverture médiatique accrue, nous souhaitons vous donner le goût de suivre les différentes compétitions et peut-être même d'applaudir les exploits d'athlètes que nous aurons connus davantage. Je m'appelle Yvan Deslauriers et tout ça en route vers les Paralympiques 2024. Dans les derniers jours des Jeux de Paris, une compétition retiendra particulièrement notre attention et nous en ferons le sujet principal de cette émission, le parajudo. En 2021, lors des Jeux de Tokyo, seulement 2 des 21 médailles canadiennes n'étaient pas en para-athlétisme, en para-natation ou en para-cyclisme. Une était en para-triathlon, avec la médaille de bronze de Stephen Daniel en catégorie PTS5 et l'autre en judo 52 kg avec la médaille d'argent presque d'or de Priscilla Gagné. Le 8 septembre, il n'y aura pas seulement les cérémonies de clôture de ces Jeux. Plusieurs finales auront lieu dans 4 sports différents. Le basket en fauteuil, le para-athlétisme, le para-canoë et la para-haltérophilie. Mais pour cette émission, concentrons-nous sur le para-judo. Durant sa carrière de judoka, Stéphanie Tremblay a gagné 70 médailles dans diverses compétitions au Canada et dans le monde. Notons particulièrement sa médaille de bronze aux Jeux panaméricains de Guadalajara en 2011. Après cette carrière, Stéphanie se lança dans une autre passion. Elle est maintenant en études doctorales à l'Université Concordia pour étudier de nouvelles méthodes d'analyse des images à résonance magnétique du cerveau. Puis un jour, l'entraîneur de Priscilla Gagné lui a offert de devenir sa partenaire d'entraînement. En acceptant, Stéphanie Tremblay reliait ses deux passions et se dirigeait vers Paris. Voici ce qu'elle avait à nous dire sur ce parcours inhabituel. Dans le cadre de cette émission sur le parajudo, nous allons parler d'un rôle dont nous n'avons pas parlé dans nos émissions précédentes, la partenaire d'entraînement. Je reçois Stéphanie Tremblay. Stéphanie, vous êtes une partenaire d'entraînement pour Priscilla Gagné. Cette tâche vous permet de garder un pied dans le judo tout en continuant vos études. J'imagine que pour vous, c'est une situation gagnant-gagnante.
Oui, en effet, absolument. Pour moi, quand André Sadage, qui est le coach de Priscilla, quand il m'a parlé de cette opportunité-là, j'étais vraiment contente parce que c'était un peu une raison de retourner dans le monde du judo que j'avais un peu délaissé depuis la pandémie. Moi, j'ai pris ma retraite du judo compétitif en 2018, mais j'avais quand même continué d'aller m'entraîner une fois semaine juste pour rester dans le monde du judo. Mm-hmm. Mais avec la pandémie, c'était devenu impossible pour ceux qui n'étaient pas athlètes à temps plein là, de s'entraîner au centre national.
Oui.
Donc, j'ai été un peu obligée d'arrêter à ce moment-là. Puis ensuite, ben c'est toujours difficile de reprendre une habitude quand on l'a pu. Fait que c'est ça. Quand ils m'ont demandé si je voulais être la partenaire d'entraînement pour Priscilla, c'était pas difficile pour moi de prendre une décision, parce que je trouvais que c'était vraiment une belle manière de revenir dans le sport.
Est-ce que vous la connaissiez à ce moment-là?
Oui, on se connaissait un peu quand même. Priscilla elle s'entraînait déjà au Centre national avant que je prenne ma retraite du judo. Mm-hmm. Mais c'est certain que j'ai appris beaucoup plus à la connaître dans les derniers 8 mois environ, depuis qu'on travaille ensemble. Donc, c'est sûr qu'on est devenus plus proches depuis.
D'accord. Vous êtes au doctorat à l'Université Concordia, où vous étudiez de nouvelles méthodes d'analyse des images à résonance magnétique du cerveau. Et c'est probablement cette passion-là qui vous a un petit peu retiré de votre passion pour le judo. Est-ce que je me trompe?
C'est sûr que c'était un élément assez majeur que j'ai pris en compte, le fait que j'allais commencer un doctorat. Mais c'est vraiment une décision qui s'est échelonnée sur plusieurs années, je dirais. Moi, j'ai essayé de me qualifier pour les Jeux olympiques de 2016 à Rio. J'ai passé très proche, comme à deux positions là, du cut-off de qualification. Donc, c'est certain que déjà à ce moment-là, ben on commence à réévaluer les objectifs. Est-ce qu'on continue pour un autre cycle au complet? Donc, j'ai commencé à faire beaucoup de le processus un peu de repenser à mes objectifs dans le sport, combien de temps je voulais continuer. Finalement, j'ai fait deux autres années, deux autres championnats du monde. Donc, pour moi, c'était un peu... Je commençais aussi à voir que ben j'avais un peu fait ce que je voulais faire dans le sport, que j'avais envie de poursuivre des nouveaux objectifs, de du temps à autre chose dans ma vie. Puis, ce qui est venu confirmer la décision que j'avais déjà prise, c'est que pour maintenir mon statut sur l'équipe nationale, puisque ça faisait 8 ans que j'étais déjà sur l'équipe nationale et plus longtemps on l'est plus, on doit atteindre des hauts critères pour le rester. Donc à ce moment-là, je devais faire un minimum un top 7, je crois, ou top 9 au championnat du monde, puis j'ai manqué. J'étais un combat près du standard. Donc c'est ça, je me qualifiais plus pour l'équipe nationale. Donc ça a un peu confirmé une décision que j'avais prise de toute façon, puisqu'il y avait le doctorat qui m'attendait et tout ça.
D'accord.
C'était une combinaison de plusieurs choses.
Alors, dans votre carrière, vous avez combattu avec des athlètes sans handicap. Est-ce que il a fallu faire des ajustements pour combattre avec une athlète non-voyante comme Priscilla Gagné?
C'est sûr, ça a été une période d'apprentissage pour moi au début. Il y a certaines règles qui sont différentes. Le changement le plus majeur, je dirais, c'est vraiment le fait que au judo paralympique, donc il commence avec déjà le contact sur l'adversaire. Donc ça, c'est assez différent du judo non paralympique, où on va vraiment, il va avoir toute une stratégie pour comment aller agripper l'adversaire, puis ça, c'est assez différent. Mais mis à part ça, c'est pas ça reste assez similaire, je dirais. Il y a quelques règles. C'était surtout dans la manière aussi, si je voulais aider Priscilla lui apprendre une technique, par exemple, j'ai dû apprendre à mieux décrire ce que je voulais dire. On est habitué quand on montre quelque chose, quand on enseigne à quelqu'un, de juste comme lui montrer. Mais là, évidemment, c'est pas. Quelque chose qu'on peut faire. Donc, on doit être vraiment plus précis avec les mots qu'on utilise pour décrire ce qu'on essaie de dire. Peut-être vraiment comme prendre le bras, le tirer d'une manière pour aussi le faire sentir au partenaire. Donc, on doit un peu penser à des nouvelles stratégies pour faire ça. Mais c'est toutes des choses que je trouve super intéressantes là, à être exposé à et à apprendre à comment mieux communiquer ces choses-là et les rendre accessibles.
Quel est le rôle et les interactions avec son entraîneur? Est-ce que son entraîneur vous parle à vous parle à Priscilla, vous parle à vous deux, puis là, vous essayez de mettre en place les directives qu'il vous donne? Comment ça fonctionne?
Oui, c'est ça. C'est un peu un mélange des deux. Parfois, il va nous parler à nous deux, parfois, il va m'écrire à moi directement. Lui, au Centre national à Montréal, il est là une fois semaine parce qu'il est basé à Ottawa. Donc, à ce moment-là, ça va être plus facile pour lui de donner beaucoup de rétroaction, de donner beaucoup de conseils. Quand il n'est pas là, ben moi, vu que je connais quand même là, les adversaires de Priscilla, les objectifs, les choses à travailler, ben je suis capable de quand même garder ça en tête, corriger certaines choses, puis c'est ça, un peu diriger les choses à travailler, l'entraînement quand André n'est pas là.
Vous venez de dire que vous connaissiez les adversaires de Priscilla. Est-ce que je peux vous demander une prédiction?
Une prédiction au niveau du podium paralympique?
Oui.
Ben nous, avec Priscilla, on y va pour la médaille d'or. C'est ça l'objectif. En 57 kilos, c'est la catégorie féminine paralympique la plus compétitive. Il y a 10 compétitrices. Puis c'est un niveau qui est assez relevé. On les connaît bien. Elle a affronté la plupart d'elles dans les compétitions de la dernière année à laquelle j'ai assisté. Donc, on pense vraiment que c'est possible. C'est ça l'objectif là, pour pour Priscilla à Paris. Puis c'est certain que dans les autres adversaires qui vont être à surveiller, c'est la Chinoise et la Turque surtout, mais il y a aussi, c'est ça, c'est une catégorie qui est très compétitive, puis il y a plusieurs autres adversaires qui peuvent poser des défis.
C'est une catégorie très relevée. Elle combattait en 52 kilos auparavant. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est on a changé les catégories ou c'est elle-même qui a changé?
Non, c'est ça. C'est vraiment les catégories qui ont changé. Le moins 52 kilos n'existe plus. Donc maintenant, c'est 57. Et ensuite, ça passe à 70. Il n'y a plus de 52. Mm-hmm. Donc, elle a dû prendre la décision là, de changer de catégorie. pour le 57, elle n'avait pas vraiment le choix.
Oui, c'est ça, ça lui a été un peu imposé.
Oui, c'est ça. Puis descendre de catégorie n'aurait pas été possible. Mais c'est ça, c'est qu'il y a moins de catégories de poids, mais maintenant, il y a des catégories par rapport à la vision. Donc,
Oui. Il y a une catégorie pour ceux qui voient partiellement, puis une pour celles qui ne voient pas du tout, c'est ça?
Exactement. Donc, okay. C'est là, en J1, donc... complètement aveugle.
Pour terminer, qu'est-ce que vous faites, vous, le 5 septembre?
Le 5 septembre?
Oui, le 5 septembre, c'est le jour où Priscilla va combattre.
Donc, on va se réveiller assez tôt, prendre un bon déjeuner. Ensuite, on sera en suite de compétition assez tôt également parce qu'il y a toujours une pesée. Donc, la vraie pesée officielle, c'est la veille de la compétition, mm-hmm. Où il doit vraiment atteindre le 57.0 ou moins. Oui. Mais ensuite, le matin même, il y a une pesée aléatoire où ils vont seulement vérifier le poids d'une partie des athlètes pour s'assurer qu'il y a comme un cut-off de, je pense que c'est 5%.
Oui. S'ils font ce poids-là malgré... Parce qu'ils ont dû probablement se réhydrater entre la pesée officielle.
Oui, exactement. Donc, s'ils sont au-delà de... Je pense que c'est 59.7 dans son cas. Donc, ils ne peuvent pas compétitionner.
Est-ce que vous êtes à Paris le 5 septembre?
Oui, absolument.
Ah oui?
Oui. C'est ça. Donc, je vais tout faire ça avec Priscilla. Je vais être avec elle pour l'accompagner au déjeuner, à la pesée, si elle est choisie. Oui, c'est ça. Donc, un de mes rôles aussi, donc je suis partenaire d'entraînement, mais je suis aussi sa guide dans les compétitions. Là. Donc, c'est ça. Et si elle n'est pas choisie pour l'apaiser, on peut se concentrer à 100% sur l'échauffement. Puis ensuite, c'est ça. C'est juste de s'assurer que Priscilla est dans une bonne... elle a un bon mindset, qu'elle est prête mentalement, qu'elle est prête physiquement, puis l'assister avec n'importe quoi qu'elle peut avoir besoin. Là.
Excellent. Bien, Stéphanie Tremblay, je vous souhaite une très belle journée du 5 septembre avec Priscilla Gagné. J'espère que c'est une journée qui va durer très, très, très longtemps avec quelques festivités à la fin.
Oui, je l'espère aussi.
Et au plaisir de se reparler plus tard, peut-être. Née à Sarnia, Ontario, le 21 mai 1986, cette hyperactive a vécu à de nombreux endroits. Elle s'est posée, pour l'instant, à Montréal. Née avec un état génétique aux yeux, appelé rétinite pigmentaire, elle a 4 degrés de vision périphérique, mais sans vision centrale. Elle est considérée aveugle. Faire la liste de ses réalisations en judo prendrait beaucoup trop de temps, mais notons cet événement qui la décrit particulièrement bien. Lors des derniers Jeux paralympiques de Tokyo, elle est choisie porte-drapeau de la délégation canadienne pour les cérémonies d'ouverture. Encore en période de COVID, le stade est vide. Pas d'acclamations venant des estrades. Pourtant, pour elle, l'émotion est à son comble. Elle pense aux enfants autochtones dont on a trouvé les cendres dans des fouilles récentes près d'orphelinats au Canada. Elle leur dédie cet honneur. Priscilla, c'est cette personne sensible aux autres autour d'elle et combattante acharnée sur un tatami. Elle a conçu un cours d'autodéfense pour les personnes malvoyantes et considère peut-être devenir entraîneur dans son après-carrière. Voici cette entrevue avec Priscilla Gagné. Alors, dans le cadre de cette émission sur le parajudo, j'ai le très, très grand plaisir, il n'y a pas assez de traits dans ce que je viens de dire, de parler avec Priscilla Gagné. Priscilla, vous avez été, entre autres choses, vous avez été porte-drapeau de la délégation canadienne lors des Paralympiques de Tokyo en 2021. Vous avez gagné de multiples médailles dans toutes sortes de compétitions. En 2021, vous étiez entré dans un stade vide à Tokyo à cause de la COVID et vous m'avez déjà raconté que vous aviez dans votre cœur la mémoire de tous les enfants autochtones qu'on venait de découvrir un peu partout au Canada. C'est ce qui vous avait beaucoup motivé à l'époque. Puis vous m'aviez dit aussi que lors des Jeux de Tokyo, il y avait eu des restrictions sanitaires assez importantes. Comment vous imaginez maintenant les Jeux de Paris?
Intéressant. Merci encore de me parler aujourd'hui. C'est très intéressant que tu poses cette question-là parce qu'on a eu un feu au stade olympique et on est encore en train de s'entraîner en dehors de Québec pour avoir l'entraînement qu'on aurait besoin pour Paris. Alors, en ce moment, je m'entraîne à Ottawa, puis... ouais, c'est ça. Avant, durant COVID, c'était aux États-Unis, c'était à Lethbridge. Puis maintenant, pour Paris, ça, c'est Ottawa.
D'accord, mais comment vous imaginez Paris, étant donné que Tokyo, ça a été des Jeux, mais il y avait plus ou moins de monde. Paris, ça va être beaucoup plus ouvert. Comment vous vous imaginez dans les Jeux de Paris?
Oui, je pense que ça va être très pacté. Le judo, c'est sûr que ça va être vendu. Déjà, les billets, ils se vendent. Puis les estrades vont être pleines. Je pense que ça va aider avec l'esprit à tout le monde, qu'on est tous ensemble encore, surtout pour les cérémonies ouverture puis fermeture. Ça va vraiment changer un peu de qu'est-ce que c'était en Tokyo. J'ai bien content de voir tous les visages souriants puis attendre tout le monde parler dans le village, puis il y aura beaucoup moins de tension, je pense.
Oui, ça va être beaucoup
plus de stress dans ce sens-là.
Ça va être beaucoup plus intéressant comme ça. Mm-hmm. En 2021, c'était les Jeux de 2020, mais c'était en 2021, vous avez gagné une médaille d'argent dans la catégorie du 52 kilos et moins. Mais depuis ce temps-là, vous avez combattu dans la catégorie des moins 57 kilos. Je pense que c'est un changement qui a été imposé par la Fédération internationale.
C'est ça, ils ont changé ça parce qu'ils ont changé aussi les classifications de vision. Puis, il n'y avait pas assez de médailles à donner. Il y a une limite sur les médailles qu'ils peuvent donner aux Paralympiques pour tout le monde. Fait qu'ils ont changé pour qu'il y a deux catégories de vision dans chaque catégorie de poids. Fait qu'il y a les non-voyants, j'ai un, puis les semi-voyants, j'ai deux. Puis les non-voyants, ils se battent entre eux, puis les semi-non-voyants se battent.
Se battre entre eux.
On se croise plus. Les non-voyants puis les voyants, on se croise plus. Fait, en faisant ça, ils voulaient enlever des catégories de poids pour avoir la même montant de médailles.
Ah,
c'est un peu politique, là, mais...
Ah, oui, je comprends. Mais ça veut dire que, admettons qu'il y aurait eu ces règles-là, mais les mêmes catégories de poids, vous auriez gagné une médaille d'or à Tokyo en 2021.
Parce que en 2021, il n'y en avait pas assez de non-voyants. Je pense qu'on était juste peut-être deux ou trois dans mon catégorie. Okay. Puis j'étais la seule qui était sur la podium. Les autres, c'était des semi-voyants.
Je comprends. Oui, vous avez déjà expliqué que c'était une personne semi-voyante qui avait gagné, puis vous aviez passé très, très proche de gagner ce combat-là.
Oui, en fait, elle est déclassée. Ça, c'était au mois de août, puis là, au mois de octobre, ils ont fait une autre classification pour les nouvelles règles, puis elle était déclassée. Fait qu'elle voit trop bien pour être dans les jeux. Ah. Fait qu'ils l'ont enlevée complètement du circuit.
Alors, pour nous, vous avez eu une médaille d'or, là.
Ben, on va dire.
comment vous voyez la catégorie moins 57 kilos cette année? Je pense que c'est une catégorie qui est assez relevée.
C'est très bon. Hein? C'est une catégorie très forte entre les non-voyants aussi. Pas juste que le monde sont plus gros, plus costauds, plus forts, mais même sont non-voyants, mais il y a du très bon judo. Il y a une nouvelle judoka qui ont sorti, qui ont trouvé, sont vraiment bonnes. Puis c'est très encourageant à voir un grand challenge comme ça. C'est un bon développement.
Pour vous, est-ce que c'est un changement important? Parce que je vois vos photos sur Instagram, entre autres. Vous êtes une petite personne, vous êtes mince.
Je suis la plus petite peut-être dans la catégorie, mais... C'est juste un autre challenge, un différent challenge. Donc, on fait l'hypertrophie qu'on peut. Je me mets le plus gros que je peux. Mais c'est juste une autre histoire de vie. Il faut qu'on... Une situation qui est présentée, puis on y va avec. Donc, je me plains pas, mais c'est sûr que mon poids naturel, ça serait plus proche à 52 kilos que 57.
Est-ce que le tirage est déjà disponible?
Le tirage... tirage, non. Ça va être le V d'avant.
Oui.
Mais on sait que je suis quatrième. Fait que je serais sur un côté, puis le numéro un serait sur l'autre côté. Mais à part de ça, on ne sait pas encore. Ça va être vraiment juste le soir avant.
Alors, nous qui allons regarder cette compétition-là, il faut faire attention à quel de vos combattantes...
Compétiteurs,
merci.
Tous sont très... le numéro un en ce moment, c'est la chinoise.
Oui.
Puis après ça, c'est l'Américain. Après ça, c'est Ukraine. Puis après ça, c'est moi. Fait que ça, c'est les top 4. Mais ils sont tous forts. Toute la gang, c'est tout du bon judo. C'est vraiment excitant pour le monde qui va regarder. Ils vont vraiment voir que tout le monde, ils ont vraiment une déficience de vision.
Mm-hmm.
Puis que le judo, il est quand même fort. On n'enlève pas notre garde pour n'importe qui parce qu'elles sont toutes bonnes. Ça va être une bonne journée de combat.
Dans cet esprit-là, est-ce que gagner une médaille, c'est vraiment essentiel pour vous?
Écoute, on fait le judo pour gagner, hein. C'est pas quelque chose, on veut pas être un touriste à Paris. Fait que c'est sûr qu'on veut toujours, on y va pour gagner. On s'entraîne puis on se bat sans regret. Puis on donne notre mieux puis c'est tout ce qu'on peut faire. Le reste, c'est à Dieu.
D'accord. Vous semblez être une des figures importantes du sport pour les personnes handicapées au Canada. Vous faites d'ailleurs partie des athlètes de la campagne La Grandeur vous nous guide, qui vise à faire la promotion du parasport. Comment vous vivez cette situation-là?
Ben moi, si je peux être quelqu'un qui inspire quelqu'un pour faire quelque chose que tout le monde pense que c'est impossible, pour suivre leur rêve, le chemin qu'ils ont dans leur cœur, je compte ça pour une gang, même si c'est juste une personne. C'est un grand honneur et plaisir d'être une partie d'un mouvement paralympique qui serait toujours dans mes livres de vie puis d'histoire. Mm-hmm. Puis juste pour être là-dedans, je compte ça comme une gang, comme un gros bénédiction puis plaisir puis un honneur.
Wow. De quoi est-ce que vous êtes le plus fier jusqu'à présent dans votre carrière de judo?
De quoi je suis le plus fier?
Oui.
Je dirais, c'est pas nécessairement une médaille que je suis la plus fière ou c'est pas de drapeau. Je pense que c'est l'attitude que j'ai toujours gardée avec moi, n'importe quoi le chemin, n'importe quoi le challenge, que la détermination, puis de rester, alors comment on dirait ça en français, pour rester vrai dans mon cœur, comme j'ai jamais changé dans mon cœur.
Oui.
Mon
vous êtes resté authentique.
Oui, puis je pense que ça, c'est pour moi, c'est la plus grande gagne parce que je trouve en vie, on a toujours des situations pour grandir, pour apprendre, puis on a des choix. On peut laisser les situations nous mettre comme bitter, comme on
fâche,
ça nous change, ouais, oui. Ça nous change pour le négatif, ou on prend les situations, les mêmes situations, puis on les prend, on apprend, puis peut-être ça nous blesse. Oui, ça fait des gros trous dans le cœur. Mais c'est une opportunité pour grandir comme un humain, puis voir qu'est-ce que nous autres, on peut faire pour changer la situation pour le futur, ou qu'est-ce qu'on peut faire pour juste donner plus de l'amour dans le monde.
Mmh.
Puis je pense que c'est cette attitude-là que j'ai gardée. C'était pas facile, tu sais, puis c'était pas toujours cette attitude-là, mais tu sais, on a des moments, là, mais overall, je pense que c'est ça que je la plus chère, c'est que j'ai resté vraiment vrai à mon cœur puis à mon caractère.
Fantastique. Est-ce que vous pourriez éventuellement être intéressé par un travail d'entraîneur auprès de jeunes non-voyants, particulièrement judo, j'imagine?
C'est sûr que je vais rester impliquée là-dedans puis aider à faire des recruits, aller chercher des nouveaux jeunes, c'est sûr.
Vous avez une chienne qui s'appelle Zofia. J'ai vu ça sur votre Instagram.
Oui.
Est-ce qu'elle vous accompagne à Paris?
Elle était supposée de venir avec moi à Paris, mais enfin, j'ai décidé de ne pas l'amener. Il y a des situations qui ont changé, du monde qui ne serait pas là, qui était supposé d'être là pour la garder, qui ne serait pas capable d'y aller.
Oui.
Puis, il fait trop chaud là-bas, puis on n'est pas sûr dans le village c'est quoi la situation pour l'acclimatiser. Pour un chien, ça peut être tough.
C'est important.
Fait que j'ai juste décidé pour son confort à elle de la laisser à la maison.
Alors, Priscilla Gagné, je vous souhaite une très belle journée du 5 septembre prochain.
Merci beaucoup.
J'espère que vous allez apprécier vos jeux et que,
oui.
Que cette journée-là en particulier va faire partie de vos beaux souvenirs dans votre carrière.
C'est sûr et certain. Puis je te remercie beaucoup, beaucoup pour tes beaux mots. Puis d'avoir mis en lumière sur les Paralympiques. Merci pour ça aussi.
Ben, soyez sûr que je vais probablement vous rappeler.
C'est bon.
OK.
C'est mon numéro.
Oui, c'est beau. Merci.
Excellent.
La compétition de parajudo, 57 kilos, J1, où participera Priscilla Gagné, commencera à 10h, heure de Paris, le 5 septembre, et on se souhaite de suivre cette compétition toute cette journée. Les cérémonies de clôture de ces Jeux paralympiques seront présentées en direct le 8 septembre à 13h30, heure de Montréal, sur ICI Télé et rediffusées en fin de soirée. Rappelons que pour la durée des Jeux, Geneviève Tardif et Kevin Breton seront les chefs d'antenne. Ils pourront compter sur l'ex-paranageur Benoît Huot, Roselyne Filion et Jean Saint-Onge pour nous faire vivre les Jeux. Une sélection d'épreuves sera offerte en intégralité sur ICITO.TV, en direct et sur demande. À la télé, ICI Télé diffusera 56 heures de programmation paralympique. Je remercie particulièrement Mathieu Tessier à la technique et Jean-Sébastien Laliberté à la mise en onde. Je m'appelle Yvan Deslauriers. J'ai été honoré de travailler à ces émissions, à la recherche et à l'animation. En route vers les Paralympiques est une série de 4 émissions conçues et réalisées par Canal M, la voix de l'inclusion.